Sébastien Chauvet. Vous êtes ilais. Vous travaillez depuis au moins 36 ans au service des marins pêcheurs. Voilà. Vous êtes aussi le témoin de plusieurs décennies de l'activité de Port-Joinville. Vous êtes, et vous y reviendrez, je sais, vous êtes directeur général adjoint d'OP Vendée, l'organisation de producteurs de Vendée, une coopérative pour la gestion commune de la pêche, avec plus de 120 bateaux adhérents entre les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Ville, Aiguillon-sur-Mer et l'Île-Dieu. Vous êtes aussi responsable de l'antenne locale du comité des pêches des Pays de la Loire, la COREPEM, c'est le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire. Le sujet du jour, c'est donc la pêche à l'Île-Dieu, au présent et à l'avenir. Alors, sur l'Île-Dieu, on compte des générations de marins, déjà issus du cabotage au XIXe siècle, on a pu en parler, il y a des livres récents qui ont été publiés, issus aussi de la pêche professionnelle, alimentant les confiseries, conserveries, dont on a pu parler aussi, et dont il y a un podcast toujours sur Neptune FM. Et de divers modes de pêche plus récents, des années qui ont toutes marqué la vie et l'ADN de l'Île-Dieu. Mais depuis 89, et peut-être vous prendrez d'autres dates en référence pour prendre un repère un peu plus proche de nous, la flotte de pêche à l'Île-Dieu a été divisée par 5. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Quel avenir pour la pêche artisanale? Sachant que la pêche, c'est de l'humain. C'est du courage, c'est du métier qui ne peut pas se réduire à des chiffres, mais il faut se méfier de l'image d'Épinal, du marin dans ses sabots avec le costume rayé, éclaboussé par les embruns. Et je pense que Sébastien a un avis très précis là-dessus. Sébastien, je vais arrêter de parler parce que c'est vous la star du jour et votre micro est là. Bienvenue à vous.
Merci, alors bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que je connais finalement peu de personnes dans l'assistance. Eh bien, tant mieux, parce que voilà, en termes d'échange, eh bien, c'est toujours un plaisir d'échanger sur la pêche à l'Île-Dieu. Et je suis persuadé que bon nombre d'entre vous connaissent l'Île-Dieu depuis des décennies et ont vu au fil du temps l'évolution du port. Alors moi, je voudrais le dire, un enfant de l'Île-Dieu. Ma grand-mère travaillait à la conserverie. Elle était venue de Bretagne en 1936, donc elle est dans les usines. Donc il y a une histoire de la pêche à l'Île-Dieu forte, du temps où il y avait 6 conserveries. Donc les Bretonnes sont venues s'installer à l'Île-Dieu, ma grand-mère en faisait partie. Maman qui est là a travaillé aussi à l'usine, après elle a travaillé dans une filetterie pour réparer les filets des pêcheurs. Mon frère était marin pêcheur, il est à la retraite depuis peu. Donc on a baigné dans ce milieu-là depuis toujours. Et puis j'ai eu la chance et le privilège surtout d'être embauché, j'avais 22 ans au comité local des pêches à l'époque. C'était un peu bizarre pour moi parce que j'étais très jeune et je tiens à rendre hommage à mon premier président qui s'appelait monsieur Bruno Girard, qui malheureusement est décédé aujourd'hui et qui était l'armateur du requin bleu. Et à l'époque il y avait sûrement des gens plus diplômés que moi, mais bon, ils ont dit que quand ils m'ont posé la question « qu'est-ce que tu connais à la pêche ?», j'ai dit « rien ou pas grand-chose ». Et le type a dit « effectivement, un type plutôt honnête, donc on va te prendre toi ». Donc du coup, au fil du temps, Bruno, alors je ne vais pas tous les citer, parce que tous ces armateurs qui sont aujourd'hui soit en retraite, si malheureusement partis, je leur dois beaucoup. Parce qu'à l'époque, oui, en 89, il y avait 100 bateaux de pêche, il y avait 30 bateaux de pêche au large, bon. Il y avait, Laurent est ici, donc il sait de quoi je parle. Et il y avait 400 marins, il y avait des grands enjeux. Donc le port, c'était de la pêche côtière, de la petite pêche, de la pêche au large. Et être secrétaire du comité local de l'époque, c'était quand même... la pêche, c'était le tambour battant de la pêche, de l'Île-Dieu. Hein. C'est-à-dire que quand on allait à la mairie, au mois de septembre, faire les horaires du bateau, eh bien voilà, les horaires du bateau, des bateaux, à l'époque la Vendée et l'Insula, eh bien c'était la pêche qui imposait ses règles, parce qu'on avait une criée, il fallait envoyer le poisson sur le continent dans des volumes importants. Et donc là, je veux dire, le tourisme s'adaptait à l'industrie de la pêche de l'époque. Donc c'était une île tournée vers la pêche. En 1991, on a tourné un film qui s'appelait L'Île-Dieu, l'île aux pêcheurs. Et à l'époque, j'ai revu encore récemment le maire de l'époque qui disait, tout le monde le disait d'ailleurs, oh là là, l'île-Dieu sans la pêche, c'est plus l'île-Dieu, ce sera plus l'île-Dieu, l'île-Dieu sera morte sans la pêche. Eh bien, on peut dire que 35 ans après, ben, c'est faux. Enfin, c'est faux parce qu'il y a eu une évolution de l'île-Dieu qui fait que la pêche aujourd'hui, c'est plus le cœur battant de l'île-Dieu, c'est une composante parmi d'autres. Et on fait tous les mêmes constats. Donc, il y a eu une évolution sociétale de l'île-Dieu. Hein. C'est pas qu'à cause de la baisse. C'est pas qu'à cause de la pêche, mais c'est comme ça. Et un jour, j'étais à la Commission européenne pour défendre le filet maillon dérivant. Je reviendrai tout à l'heure. Et la commissaire de l'époque, qui était une Italienne, j'ai rien contre les Italiens, rassurez-vous, qui était Emma Bonino et qui, a priori, devait connaître l'île-Dieu et avait dit, oh, vous savez, vous, l'île-Dieu, si on vous interdit la pêche, ne soyez pas inquiets, vous avez le touriste. Je me souviens de Bruno Girard, qui était là aussi, Bernard Groisard. On était tous interloqués et on s'est dit, mais eh bien voilà, cyniquement, elle avait peut-être raison. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'île-Dieu, certains l'avaient imaginé sans la pêche. Voilà. Certains l'avaient peut-être anticipé. En tout cas, pas nous.
Je me permets peut-être une question pour contextualiser aussi. Oui. Et puis, mais encore une fois, notre sujet, c'est l'île-Dieu. Oui, mais oui, pour donner un peu de... la pêche française vous semble, mais je me trompe peut-être dans les chiffres, la pêche française c'est 15% de la consommation totale en France. Oui. Le reste c'est du poisson frais non congelé transporté par avion. C'est un chiffre qui m'a frappée. Et encore une fois, c'est pour replacer la contribution des... Il y a combien ? Il y a 15 bateaux, il y a 3 gros bateaux. Oui. et le reste c'est des...
C'est des gars de pêche côtière ou pêche, voilà, côtière, oui. Mais alors, sur cette histoire de poissons, jusque dans les milieux des années 90, la pêche française, la pêche européenne était relativement protégée. Parce qu'il y avait effectivement des importations qui venaient en Europe, mais ça venait par bateau et c'était du poisson congelé. Et en quelques semaines, en quelques mois, c'était en 93, Laurent, tu t'en souviens très bien, on a vu déferler du poisson, de plus en plus de poissons d'Amérique du Sud, et notamment le merlu, et d'Afrique, parce que en 93-94, la première criée d'Europe, eh ben on pouvait penser qu'on la chercherait dans un port, et eh bien pas du tout. La première criée d'Europe, c'était l'aéroport de Madrid. Parce que le poisson est monté dans l'avion. Et ça, ça a été une révolution, parce qu'on a été presque du jour au lendemain concurrencé par des pêcheurs, artisans ou non artisans. Et donc le poisson, il arrivait frais en Europe. Et ça, c'était une... Et pourquoi il y a eu un des premiers plans de casse en France, c'est que ben, le poisson, le merlu qu'on vendait, 30 francs, parce que bon, c'était le... Eh ben, il valait 10 francs à l'époque, hein, Laurent. Et donc le modèle économique de la pêche française s'est effondré. Et donc malheureusement, il y a eu un plan de sortie de flotte pour les bateaux. Et puis seuls ceux qui étaient rentables sur certaines espèces sont restés. Mais la première grande crise de la pêche des années 90, ce n'est pas une crise de la ressource. Ça a été une crise de marché. Et franchement, là, il a fallu s'adapter. Et d'ailleurs, je parle toujours de Madame Bonino, mais elle était venue au Guilvinec. Alors, début des années 90, il y avait la mise aux normes des criées en France, parce qu'il fallait effectivement remettre les criées aux normes, avec le froid, la marche en avant, etc. Et donc elle était venue au Guilvinec et elle avait dit aux pêcheurs bretons, bon écoutez, voilà, vous avez des superbes infrastructures, on va tout faire pour que vous, les mareyeurs, vous puissiez avoir du poisson. Mais en fait, l'idée, c'était pas que le poisson vienne de la mer, mais plutôt qu'il vienne d'avion et qu'il vienne en camion, parce qu'elle avait dit, on va tout faire pour qu'on puisse importer en Europe du poisson brut, et la valeur ajoutée, c'est vous qui la ferez. Et c'est ce qui s'est un peu passé. Et donc, c'est vrai qu'à l'île-Dieu, on était sur un modèle de pêche fraîche, où on débarquait du poisson dans la criée de l'île-Dieu, mais aussi au Sable d'Olonne. Ce poisson alimentait le marché français et aussi le marché espagnol. Et du jour au lendemain, on a eu une très grosse concurrence, et c'est pour ça que ça a été le début du déclin de la pêche.
Alors, parlons du TAC. Le taux admissible de capture et de son impact, si vous voulez bien. Comment ça se passe concrètement pour évaluer les TAC annuels ? Les scientifiques donnent leur évaluation des équilibres entre les espèces et puis après le Conseil européen des pêches arbitre. Il semblerait aussi que toutes les espèces ne sont pas soumises aux quotas, qu'il y a des critères différents aussi selon les pays, avec de la pêche, je dirais, individuelle et de la pêche avec des normes qui ne sont pas équivalentes entre, par exemple, l'Islande et la France. Voilà, la fameuse TAC. C'est...
Alors, le TAC, c'est le taux admissible de capture. Alors bon, aujourd'hui, vous savez que les agriculteurs ont la PAC et nous, on a la PCP. PCP, politique commune de la pêche. Bon, en gros, c'est 83-84, la mise en place de la PCP. Donc, il y a eu des mises sous TAC, des mises sous quota, donc qui étaient plutôt... Malgré que, bon, il y a eu à l'époque une réticence de la profession, parce que c'est vrai qu'un encadrement administratif, ça ne fait jamais plaisir, mais globalement, la mise sous quota de certaines espèces, sur du temps long, aujourd'hui, on peut dire que c'était plutôt une bonne chose, sur le principe. Dans les faits, quand du jour au lendemain, on vous annonce une baisse de quota de 50%, c'est compliqué. Donc le TAC, comment que ça se passe ? Bon, il y a les scientifiques qui font leur travail, qui émettent des avis. Alors ça, c'est un avis scientifique. Et ça, c'est vers le mois de juin, sur les futurs TAC de l'année N+1. Après, il y a des consultations entre les États et la Commission. Et puis, au mois de décembre, c'est la grande réunion du Conseil européen des pêches. Hein, donc, pour nous, c'est le ministre, enfin, c'était le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Bon, ça a évolué parce qu'aujourd'hui, nous, on est les pêcheurs, on est à l'environnement. On n'est plus à la pêche, on n'est plus considérés comme des producteurs, mais on est plutôt considérés comme des gens qui font partie de la nature. Bon, voilà, bon. J'en dirai pas plus. Et donc, il y a une grande tractation qui se passe en décembre pour mettre des TAC, des taux admissibles de capture. On définit un TAC à l'échelle européenne. Et après, les quotas sont distribués par pays en fonction des espèces. Et le pays, la France. Pourquoi il y a des OP ? Alors, une OP, c'est quoi ? C'est une organisation de producteurs. Alors, on dit organisation de producteurs. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ce terme. Parce que c'est bien l'idée des années 80, il fallait produire. Bon, les pêcheurs, on ne produit pas des tomates, on ne produit pas des voitures, on ne produit pas des boulons. On prélève dans un milieu naturel, donc on est plutôt des pêcheurs, des cueilleurs, plutôt que des producteurs. Mais enfin, c'est comme ça, c'est resté. Et donc, la France a des quotas. Et donc, comme elle n'a pas que ça à faire de gérer des quotas, donc on a un agrément, les OP, une délégation de service public, si vous, enfin, je schématise à mort, mais c'est un peu ça. Pour effectivement, on a une part de ce quota national, nous, en Vendée, qui est calculé en fonction de l'antériorité des navires. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est même très compliqué. Et on gère un quota. Donc tous les mois, on se doit de comptabiliser ce que nos marins pêchent, de l'envoyer à Paris.
Donc nous, c'est en gestion individuelle en France, hein, c'est ça ?
Alors nous, en fait, l'OP, on est en gestion collective. C'est-à-dire que tous les marins de notre organisation ont les mêmes devoirs, ont les mêmes droits. C'est-à-dire qu'un jeune qui commence peut pêcher la même quantité de poissons que, je dirais, quelqu'un qui est là dans la profession depuis longtemps. C'est-à-dire que les antériorités des bateaux sont cumulées et après on fait des parts égales. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est comme ça qu'on peut attirer des jeunes dans la profession et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui profitent du système. Voilà, c'est un peu ça. Alors je sais que dans d'autres organisations, c'est pas du tout le cas. Hein. On est sûr de l'individuel et on n'est pas sûr du collectif. Voilà. Ce que j'ai à dire sur les TAC, c'est ça. Alors toutes les espèces de poissons ne sont pas mises sous TAC. Par exemple, je vais vous donner l'organisation de producteurs gère toutes les espèces qui sont sous quota, sous TAC. Voilà. Et puis, le rôle du comité, c'est plutôt de gérer les espèces qui ne sont pas sous TAC et quota. Et là, l'entrée pour pêcher, c'est plutôt d'avoir une licence de pêche. Par exemple, tous les crustacés, d'autres espèces. Mais l'OP s'occupe effectivement des poissons sous quota. Et le comité, alors le comité, c'est autre chose parce qu'il y a un rôle politique. Hein, une OP, c'est une organisation professionnelle d'armateurs. Le comité, c'est pas ça. Le comité, c'est issu d'élections professionnelles tous les 4 ans, un peu comme une chambre d'agriculture, vous voyez. Et donc, il y a un collège armateur embarqué, non embarqué, et un collège salarié. Donc là, le comité a un rôle de représentativité et de défendre des intérêts. C'est-à-dire que c'est le représentant légal de l'administration. Donc, quand la profession est interrogée, on interroge le comité régional des pêches. Avant, c'était les comités locaux. Ah, moi, j'étais secrétaire du comité local des pêches. Donc, il y avait un comité local par port. Et donc, c'était une organisation qui était issue de l'ordonnance 1945. Et en 91, il y a eu une grande réforme. Et donc, aujourd'hui, l'échelle de représentativité des pêcheurs ne se fait plus à l'échelon local, mais à l'échelon soit départemental, soit régional. Donc, pour les Pays de la Loire, on a choisi, enfin, nous, les pêcheurs, on a choisi d'avoir un comité régional fort avec des antennes locales. Mais aujourd'hui, le représentant légal des marins pêcheurs, c'est le président du comité régional des pêches des Pays de la Loire. Ce n'est plus le président du comité local, comme auparavant. Donc je vais les citer, parce qu'il y a eu Bruno Girard, après il y a eu Bernard Groisa, armateur bien connu, Bernard Martin, et puis Éric Tarot. Donc voilà. Et après, aujourd'hui, on n'a plus de représentants. Ben, si, je veux dire, on a des représentants du port au comité régional des pêches. Mais globalement, quand on donne un avis, eh bien, il faut tenir compte de l'ensemble de l'avis des autres ports des Pays de la Loire, qui sont la Turballe, le Croisic, l'Herbaudière pour Noirmoutier, l'Île-Dieu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne.
Merci. C'est très technique, mais c'est important, je pense, pour savoir dans quoi vous naviguez dans vos activités, dans votre métier, et dans quoi naviguent effectivement les marins et les pêcheurs. Est-ce qu'on peut parler aussi de la licence ? Une licence, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un quota de licence ?
Oui, alors il y a des licences régionales, où c'est le comité régional qui décide de du contingent. Hein. Et donc, il y a des règles pour l'obtention de licence. Hein. C'est-à-dire qu'il faut effectivement justifier d'une production, d'une pêche. Et puis, il y a aussi des règles pour les entrants, les nouveaux entrants, les jeunes, pour ne pas les brider. Donc, des licences régionales. Et puis, il y a aussi des licences nationales, où, par exemple, sur le bar. Hein, le bar qui est un poisson où il y a des grands enjeux, hein, qui ne sont pas forcément que des enjeux de pêche professionnelle, mais aussi un enjeu pour la pêche plaisance, parce que c'est le roi des poissons, tout le monde veut en pêcher, etc. Donc, comme c'est un enjeu national, la licence est nationale. Et le bar, aujourd'hui, il est piloté par le Comité national des pêches, qui nous impose, alors bien sûr, on a augmenté la taille marchande du bar. Bon, on a imposé j'imagine quand ici, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont un canote et qui savent ce que c'est que la réglementation sur le bar. Il y a 15-20 ans, ça n'existait pas. On allait en mer, on pêchait le nombre de bars qu'on voulait. La taille était finalement assez faible, on peut le dire. Donc aujourd'hui, il y a eu sur le bar beaucoup d'efforts faits par la pêche française et notamment aussi imposés aux pêcheurs plaisanciers. Alors il y a des licences régionales et des licences nationales. Donc ce sont des contingents. Et alors on peut décider d'augmenter ce contingent en fonction de la ressource ou la diminuer. Ou diminuer les licences. Et à l'intérieur, ils mettent des règles. Par exemple, la taille marchande, un plafond, une périodicité, des choses un peu techniques qui font qu'on essaye au mieux de gérer la ressource.
Alors une petite question aussi au niveau de, et puis après on passera à d'autres thèmes, mais encore une fois pour donner le contexte, la gestion de l'espace maritime, c'est souvent un terme qui revient dans la presse, qui revient aussi par rapport à la réglementation. Qu'est-ce que c'est ?
Bah écoutez, avant c'était la mer appartenait aux marins pêcheurs, hein, Laurent. Voilà, hein, on était les rois. Donc la mer appartenait aux marins, voilà, c'était comme ça. Et puis il y avait beaucoup de... Déjà l'espace, il fallait se le partager entre marins. Parce que quand on disait qu'il y avait 100 bateaux de pêche à l'Île-Dieu, c'était vrai dans tous les autres ports. Moi, mes premières années de secrétaire, on faisait beaucoup, beaucoup de réunions avec les autres ports, et même à l'intérieur du port, parce qu'il y avait des enjeux à la côte l'hiver. Et donc on gérait l'espace entre marins pêcheurs, entre métiers. Donc il y a eu des accords de pêche entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Île-Dieu sur la sardine, parce qu'elle venait à l'intérieur des 3000, etc. Donc on gérait l'espace parce qu'il y avait beaucoup de bateaux, donc c'était un vrai enjeu. Et puis au fil du temps, l'espace maritime, il a fallu, entre guillemets, le partager pour des questions, je dirais, industrielles, les extractions de granulats marins, les parcs éoliens, et puis aussi aujourd'hui pour des questions environnementales avec l'approche de Natura 2000, Aujourd'hui, on veut faire des zones de protection fortes. Je parle par exemple du plateau de Rochebonne, qui c'est quand même un enjeu très fort pour les gars de l'île-lieu, et puis pour les autres aussi, mais par exemple. Donc aujourd'hui, l'espace maritime, et puis aussi, la mer, elle investit aujourd'hui pour le loisir, hein, la pêche plaisance, la plaisance, etc., les nouveaux trafics, fait qu'aujourd'hui, on se doit de partager l'espace. Tout ça, il y a des règles, il y a un préfet maritime qui est là, l'État est là pour... imposer aussi des règles, mais aujourd'hui, la mer appartient à tout le monde et les pêcheurs, on se doit de faire des concessions donc qui sont plus ou moins acceptables. Aujourd'hui, on donne souvent des avis, mais après, c'est l'État qui décide. Mais voilà, l'espace maritime aujourd'hui est un espace partagé, alors que par le passé, c'était presque un usage exclusif.
Alors effectivement, donc des strates locales, des concertations locales, départementales, régionales, au niveau européen. Vous parliez, quand on a discuté un petit peu, de la judiciarisation aussi de cet accès aux ressources.
Oui.
Et voilà, c'est qu'elle soit européenne ou écologique, c'est beaucoup de règles et avec ce sentiment qu'il y a une sorte de chape qui vous empêche de travailler, tout simplement.
Alors, depuis peu, donc ça fait à peu près une dizaine d'années, quand on parle de la judiciarisation, oui, merci.
Par exemple.
Voilà, c'est pas un cadeau, mais en fait, pour vous donner un exemple vraiment, un vrai cas d'école, pourquoi aujourd'hui, au mois de février, les marins pêcheurs arrêtent de pêcher et restent à quai pour, entre guillemets, protéger les dauphins. Ça, c'est une décision de justice. Ce n'est pas une décision du ministère de l'Agriculture, ce n'est pas une directive de la Commission européenne, non. Aujourd'hui, les associations environnementales, alors je peux les citer, hein, bien sûr, ce sont des associations nationales, Bloom, Sea Shepherd, c'est l'amour qu'on a pour Sea Shepherd à l'île-lieu. Et donc aujourd'hui, au lieu de saisir l'autorité compétente, on saisit la justice. Et on dit, par exemple, je ne vais pas vous la faire assez courte, on dit, ben voilà, on va, parce que c'est pas les pêcheurs qui ont été condamnés, c'est l'État. C'est-à-dire que on attaque l'État en disant vous faites pas assez pour protéger les dauphins. Voilà. Et donc on va demander à la justice de trancher. Et c'est ce qui s'est passé. Donc une décision de justice qui condamne l'État français parce que elle n'a pas fait assez pour protéger les dauphins. Bon, il y avait un plan de cétacés où on met sur les bateaux des pingers, vous savez, des effaroucheurs à dauphins, on va dire ça comme ça. Donc on a mis tout un plan en place, mais c'était pas suffisant. Mais de toute façon, c'est jamais suffisant. Hein. Et donc aujourd'hui, l'État a été condamné. Et donc quand on parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est la justice qui vient trancher des litiges qu'on a, mais avec les organisations écologistes qui ont bien compris le système. Et donc aujourd'hui, ils saisissent le Conseil d'État en disant, voilà, la France a signé une convention internationale sur tel et tel sujet. Eh bien, on considère que nous, vous n'appliquez pas cette convention ou pas suffisamment, etc. Et donc aujourd'hui, c'est la justice qui met les bateaux à quai. Et ça n'existait pas il y a 10 ans.
Et donc, ce que vous dites, c'est que quelque part, il n'y a pas de discussion, quoi. On parle, c'est les outils qui tranchent et ce n'est pas l'expérience les faits et la connaissance, finalement, du milieu marin, des obligations. C'est les outils juridiques qui tranchent la plupart du temps.
Oui, puis bon, il faut savoir aussi qu'en termes de... On a appris ça... Quand il y a eu l'interdiction du filet maillant dérivant le 8 juin 1998, on a bataillé pendant presque 10 ans. Hein. Alors le filet maillant dérivant, c'était quoi ? C'était un nouvel outil. Enfin, le filet maillant dérivant, c'est un filet de surface qui dérive. Hein. Je veux dire, souvent Bernard Coisard disait ça à la Commission européenne. Vous savez, Madame la Commissaire, un filet dérivant, c'est pas un truc qui fait peur. Hein. Je veux dire, les apôtres s'en servaient pour pêcher du poisson dans le lac du Jourdain. Bon, voilà. C'est Bernard Coisard qui disait ça, mais c'est plutôt vrai, parce que bon, un engin de surface, souvent, c'est l'engin du pauvre, hein. Il n'y a pas besoin de gros moteurs pour tracter des chaluts, donc on avait imaginé le filet dérivant, donc Laurent a fait partie des précurseurs ici. Et donc on a été embrigadé dans une campagne internationale, où il y avait la pêche industrielle, notamment asiatique, qui mettaient des centaines de kilomètres de filets dérivants dans le Pacifique. Et là, il y avait des vrais problèmes de prise accessoire, d'oiseaux, de dauphins, etc. Et donc, on a été attaqué par les organisations écologistes, notamment Greenpeace à l'époque, hein, qui avait déployé des moyens énormes en mer. C'est-à-dire qu'il y avait un bateau, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais bon, ils avaient le satellite. Ils ont été capables, au journal de 13 heures, de filmer des bateaux en mer à 300 milles de la côte. Comment voulez-vous lutter quand on est des pêcheurs artisans comme nous ? Il y avait des campagnes de journaux, il y avait des campagnes dans la presse nationale, dans Le Monde, Libé, etc. On en prenait plein les carreaux. Et un jour, les gars ont dit « Ah ben nous, on va faire pareil. Hein. Sébastien, t'appelles l'AFP ou je sais pas quoi, et puis on va faire une campagne de presse. » Ben voilà, une journée, enfin je veux dire, ça, pour faire ça une journée, c'était le budget du comité local sur l'année. Donc globalement, on n'avait pas de moyens. Et donc souvent, ben, malheureusement, les organisations écologistes, soit nationales, soit à l'échelle européenne, eux, ils ont des moyens forts. Et eux, ils ont des objectifs clairs et ils mettent le paquet pour ça. Et souvent, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Malgré la bonne volonté que nous avons eue sur le filet dérivant, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe a été au-delà des résolutions de l'ONU, hein, parce que nous, on avait des filets de 2,5 km, parce que l'ONU avait défini qu'on ne pouvait pas interdire à l'échelle de la planète les filets dérivants, parce que c'est des filets de surface, et c'est souvent les marins les plus, je dirais, les plus, pas les plus pauvres, en tout cas ceux qui font de la pêche vivrière, qui mettent des filets de surface, hein, bon, on a tous vu ça, et donc on a décidé qu'un grand filet moyen dérivant, c'était un filet de 2,5 km, plus de 2,5 km, nous on était dans les petits. Et en fait, à l'époque, la Commission européenne, le Conseil européen des pêches, puisque la France a été mise en minorité, on a décidé d'aller au-delà des résolutions de l'ONU pour interdire complètement les filets maillons dérivants, même les petits. Et donc, on a attaqué cette affaire au tribunal, au tribunal de, c'était quoi la...
Administratif ou...
Non,
à la Cour européenne.
Oh, voilà, merci à la Cour européenne de justice.
J'ai entendu ça dans le.
Ça nous a fait. Ça a coûté beaucoup d'argent à l'époque. D'ailleurs, je peux peut-être remercier quelques personnes ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous avaient aidés. Hein, des particuliers. Bon, là, la profession avait payé, etc. Ça nous avait coûté fort cher. On avait pris des avocats de renommée européenne. Parce que c'était vraiment perdre le ton à l'île-dieu. C'était perdre effectivement plus de 50% des chiffres d'affaires. Et donc, c'était très, très important pour les 24 bateaux qui avaient fait ce recours. Malheureusement, on a perdu. Voilà.
Donc, en fait, beaucoup de votre énergie va aussi à, quelque part, garder l'identité, la taille. Voilà, ce n'est pas toujours la surpêche au niveau international qui concerne l'île-dieu. Mais donc, du coup, on est parfois pris dans l'amalgame. Et c'est une question de dosage aussi.
Alors,
pour les
filets dérivants, c'était effectivement l'amalgame, hein, bien sûr. Et en plus de ça, à la Commission, on est allé plusieurs fois au Parlement européen. On avait fait des films, on a présenté ça. Je me souviens d'être à Strasbourg avec nos petits moyens, nos petits micros, etc. On avait été aidés par des gens de qualité. Par exemple, je pense aujourd'hui à Gérard Daboville, qui nous avait beaucoup aidés à l'époque. Il était député européen, il avait quand même une autorité, une aura. Et il nous avait beaucoup aidés, malgré tout ça n'a pas suffi. Mais c'est vrai que souvent, il y a des amalgames, parce que bon, on le voit actuellement. Bon, on a vu par exemple des gens, comment il s'appelle, ce jeune gars là, qui a une belle gueule sur France 5, là, qui fait des belles émissions sur l'environnement.
Je suis nul en pipe.
Non, personne ne sait. Non, mais si. Oui, voilà. Eh bien, lui, c'est l'exemple parfait. Voilà. Beau gosse, beau discours, magnifique. Il ferait pleurer la France entière, sauf que derrière, on rame, nous, les pêcheurs. Parce qu'il dit, oui, dans les aires marines protégées, la pêche est autorisée, c'est un scandale, etc. Bon, c'est pas forcément faux non plus. Mais quand on tape trop sur la pêche, on se rend pas compte qu'on tape aussi sur le petit. Alors est-ce qu'il faut interdire ? Alors là, je peux en parler de façon assez libre, parce qu'à l'île-dieu, il n'y a pas de chalutiers. Bien que dans le monde d'organisation professionnelle, à Saint-Gilles et au Sable-d'Olonne, il y a des chalutiers. Alors on dit, oui, il faut interdire le chalut de fond dans les aires marines protégées. Le chalut, on détruit des dizaines de terrains de football, chaque trait, etc. On présente ça comme une horreur. Bon, je dirais que non. Enfin, il faut savoir ce que c'est qu'un chalutier. Alors, bien sûr, les énormes chalutiers industriels qui développent des milliers de chevaux, la puissance motrice du moteur fait que bon, c'est comme un tracteur. Hein, d'ailleurs, voilà, il va labourer, etc., avec des grosses puissances. Aujourd'hui, la pêche française, c'est que des bateaux de moins de 25 mètres. Et c'est souvent des bateaux de 15 mètres qui font le chalut. Et si aujourd'hui, vous mangez des langoustines, c'est parce qu'il y a des chalutiers dans le golfe. Et ceux-là, ils pêchent sur la grande vasière. Au large de l'île Dieu et qui pourra monter jusqu'au Guilvinec sur des terrains meubles. Bon, je dirais qu'il n'y a pas de souci avec ce genre de technique de pêche. Donc quand on dit qu'il faut interdire le chalut, il faut faire attention parce qu'il y a des tas de petits marins, des tas de petits pêcheurs qui aujourd'hui pêchent le chalut, pêchent au chalut, des espèces. Bon, on ne va pas pêcher la langoustine au casier ni à la ligne. Hein. Enfin, je dis une bêtise, mais ça fait sourire tout le monde, mais c'est une réalité. Donc quand on dit qu'il faut interdire, et bien souvent, c'est pas qu'on se trompe de cible, mais on fait des amalgames tels que souvent, ben on fait des, il y a des dégâts collatéraux.
Voilà, sortir du brouhaha, quoi, quelque part, et identifier ce qui est important et le faire entendre. Peut-être un mot aussi, on vous questionne sur le parc éolien. C'est une question. Est-ce que ce parc a un impact au niveau de la pêche, au niveau de l'espace maritime? Voilà, on pense à des courants qui changent peut-être. C'est pas lié au voilà. Mais encore une fois, c'est une question.
Il faut mettre ça effectivement. Bon, on va pas refaire le match. Hein.
C'était
mais,
pas le sujet.
Non, mais je veux dire par là que on est en 2025. Et nous, les développeurs éoliens, on les a reçus avant 2010, avant qu'il y ait une programmation nationale, avant que l'État prenne la main. Parce qu'avant 2010, les développeurs éoliens pouvaient déposer des permis de construire et pouvaient avoir des autorisations pour mettre des parcs un peu n'importe où. Et avant 2010, bon, bah, effectivement, ça a créé un petit peu de l'émoi dans la pêche. Et donc, on a eu une programmation nationale. Et donc, on savait que de toute façon, nous, les Pays de la Loire, on n'y couperait pas. Bon. Ce qui s'est passé pour le parc de l'Île-Dieu, je le dis sans honte, sans crainte, c'est qu'à l'époque, c'était piloté par le préfet de région. Et le préfet de région nous a réunis. Alors à l'époque, c'était les comités locaux. Hein, voilà, en disant, messieurs, voilà, on va mettre un parc éolien. Si vous ne nous faites pas de proposition, on le mettra peut-être dans des endroits où il y aura des forts enjeux pour la pêche, et c'était plutôt le sud de l'île, les pêcheries de sol, etc. Voilà, dans le franc, on appelle ça entre les Sables d'Olonne et l'Île-Dieu, là, vous voyez, pour ceux qui connaissent. Et là, il y avait des gros enjeux pour la pêche, les fileyeurs, les chalutiers, les ligneurs, etc. Et donc, il y a eu une réflexion des ports, et la proposition qui a été faite au nord de l'île, elle a été faite par la pêche. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'on s'est dit qu'il fallait mettre ces éoliennes sur des plateaux rocheux. Et c'est ce qui s'est passé en Pays de la Loire, tant celui-là que sur le plateau du Croisic. Ce sont des plateaux rocheux, ça veut dire qu'on n'impactait pas les chalutiers et on préservait l'activité des arts dormants. Et c'était ça, c'était une zone de moindre impact, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, mais une zone de moindre impact. Et c'est comme ça que ça s'est passé, donc l'État a validé cette zone. Alors, il y avait des critères sur la pêche, mais pas que, parce que l'État, vous savez, on a regardé les questions militaires, les questions, enfin, il y avait plein d'autres, on a empilé les réglementations les unes sur les autres, et on est arrivé à un périmètre. Bon. Parce qu'à l'époque, on ne réfléchissait que les 12 000, parce que la contrainte technique, c'était les 35 mètres. Donc aujourd'hui, la technologie a évolué. Donc on parle aujourd'hui de parcs marins, non pas plantés, mais des parcs flottants. Hein. Et donc là, si vous allez sur Internet, vous tapez programmation éolien français, vous allez voir que les futurs parcs éoliens, s'ils voient le jour, ça ne va pas déranger personne parce qu'on ne les verra pas. Ça dérangera plutôt les marins pêcheurs, ceux qui font la pêche au large, hein, parce qu'on ne sera plus du tout dans la bande côtière, mais on sera beaucoup plus au large avec des enjeux différents. Mais globalement, on ne les verra plus de terre. Donc c'est ça. Donc concernant le parc éolien, oui, il y a un impact. Alors tel qu'il est, c'est pendant la construction, hein, vous savez qu'il y a tout un système d'indemnisation des pêcheurs. Donc les pêcheurs qui étaient là pêchés ont été indemnisés pour leur manque à gagner pendant la construction. Hein. C'est vrai pour l'ensemble des parcs éoliens en France. Hein. Et puis, alors le retour d'expérience, on n'en a pas, mais je peux vous dire que celui du Croisic qui est sur un plateau rocheux, donc globalement, l'effet récif, il existe. Bon, j'ai vu des vidéos récemment qui m'ont envoyé les collègues du Croisic. Effectivement, voilà, on peut pas dire qu'un parc éolien ça fait peur aux poissons. Au contraire, il y a de la faune, de la flore qui se développe autour des pylônes. Et bon, les pêcheurs de Noirmoutier, les pêcheurs du Croisic, aujourd'hui ils pêchent, alors pas plus, pas moins, mais ils pêchent dans les parcs. Et je veux dire, le poisson il est là. Alors l'impact qu'il y a, il est difficile à dire, à évaluer pour l'instant, parce qu'on manque de recul. Mais moi, j'ai pas trop de soucis sur, j'ai pas peur que le poisson s'en aille. Au contraire, ça va. De toute façon, tous les marins pêcheurs le disent et tous les marins en général. Bon, voilà. Hein, Il y a Sporn, il y a les corbeaux, tout ce qui est dans la mer, ça attire. Toutes les épaves attirent. Tous les marins pêcheurs cherchent quoi pour pêcher du poisson? Des épaves. Et donc ça sert aussi de récif artificiel et d'épaves. Donc sur un plateau rocheux, je pense qu'il y aura des concentrations de poissons qu'il n'y avait pas par le passé. Et ça, c'est que moi qui le dis, c'est pas un fait scientifique. Mais c'est ce que pensent beaucoup de pêcheurs. Et malgré la contrainte, l'idée chez beaucoup de gens, c'est de dire d'une contrainte, il faut en faire une opportunité. Alors c'est pas forcément facile, mais aujourd'hui c'est là, il faut bien faire avec. Voilà.
Alors une question aussi par rapport à... On a sur l'Île-Dieu, on a la chance d'avoir une école qui s'appelait avant l'école des pêches,
oui,
et qui a été renommée l'école des métiers de la mer, si je me trompe.
L'école de formation maritime, oui.
Et du coup, est-ce que on peut dire que c'est l'échange, que c'est aussi une sorte de miroir du changement, comme si c'était élargi aux métiers de, à une diversité métier de métiers.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, avant l'école des pêches, elle était où il y a le musée de la pêche aujourd'hui. Pour ceux qui ont connu, et le comité local des pêches, il était où il y a la petite cahute de la SNSM. Là. Bon. Donc l'école des pêches de l'Île-Dieu, ben, pendant très longtemps, elle a formé des générations de marins, mousses, lieutenants, patrons, mécaniciens. Bon voilà, ça fonctionnait plutôt bien. D'ailleurs, moi quand j'avais 15-16 ans, on était deux ou trois gars à faire des études et le reste de mes copains, ils allaient à l'école des pêches. À l'époque, je crois que c'était 67, 77, ouais, dans les années 79-80, il y avait 20 mousses à l'école chaque année. Et donc ça fonctionnait pendant très longtemps et c'était très bien comme ça. Donc aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc l'école de pêche a vu effectivement les formations initiales diminuer. Et donc on s'est ouvert, enfin l'école des pêches de l'Île-Dieu s'est ouvert à la formation maritime au sens large. Donc des diplômes pour les plaisanciers, hein, parce qu'aujourd'hui la plaisance c'est aussi un métier, hein, il faut transporter des navires des Caraïbes de France, etc. Enfin, il y a un vrai métier autour de tout ça, il y a des formations, donc on sait le capitaine 200, le capitaine 500, etc. Et puis il y a aussi des formations passerelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marin pêcheur qui a un diplôme, il n'est pas dans un carcan pour rester marin pêcheur toute sa vie. Donc aujourd'hui aussi, la formation maritime est liée. Bon, les gens peuvent aller au commerce, etc. Donc l'école des pêches, elle a évolué au niveau local. Et puis depuis maintenant 6 ou 7 ans, l'école des Sables d'Olonne, parce qu'en fait, la formation, c'est souvent des écoles de l'État. Hein. Et il y a deux écoles privées maritimes en France, elles sont en Vendée. Voilà. Et donc on a fusionné les Sables d'Olonne et l'Île-Dieu. Et aujourd'hui le directeur de cette école de formation maritime, c'est un Ilais, il s'appelle Jackie Coutuy. Et donc voilà, il pilote les deux sites et ça marche plutôt bien. Donc oui, il y a de la formation initiale, de la formation continue et puis de la formation qui sont liées aux nouveaux métiers de la mer. Voilà.
Et il y a de l'engouement, il y a des demandes, il y a des
impressions que ça s'ouvre. J'ai parlé comme un vieux, mais voilà, moi j'ai été dans le conseil de l'école des pêches depuis 1989. Donc on a vu l'évolution, mais aujourd'hui, on n'essaye pas, on le fait. Moi je vais beaucoup dans les collèges, je vais beaucoup dans les lycées, Jackie le fait aussi, etc. Pour expliquer ce qu'est la pêche aujourd'hui, c'est un métier de passion, c'est un métier de l'humain. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit assez, mais je veux dire, un métier de la pêche, c'est... La vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Donc, c'est quand même des fois un peu angoissant, mais c'est ce qui est aussi excitant. Et donc le métier de l'humain, le métier de la passion, le métier de l'incertitude, d'avoir toujours un cadre qui est souvent sans cadre. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça. Et donc il faut aller vers les jeunes, leur expliquer que le métier de la pêche, il a évolué. Bon, le métier d'Épinal, vous le disiez tout à l'heure, du marin avec son suroît et qui prend des paquets de mer sur la gueule, et puis non, c'est fini. Hein. Je veux dire, voilà, les bateaux sont modernes, on est protégé. Alors, la sécurité a beaucoup changé, hein, il faut le dire. Et puis aussi, les marins, ils ont une des sources d'informations que n'avaient pas leurs aînés en termes de météo, en termes de communication. C'est-à-dire que là, j'ai mon portable, je peux appeler. Je peux appeler un marin pêcheur qui se retrouve à 100 000 au large, hein, voilà, avec les WhatsApp et compagnie. Aujourd'hui, les marins, ils ont le satellite, donc ils ont une information. Et aujourd'hui, les marins ne se font plus surprendre par le mauvais temps. Malheureusement, on a eu des accidents par le passé où les marins, ils étaient au thon, il fallait subir la météo et ils n'avaient pas le choix de le faire, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Genre que quand il fait mauvais temps, aujourd'hui, tous les marins sont au port. Et les familles s'inquiètent beaucoup moins. Donc, et puis, il y a eu beaucoup plus de temps de repos, de vacances, de récupération, etc. Et donc, c'est vrai qu'un marin, un bon pêcheur, en gros, il va naviguer en temps effectif, hein, 180 jours par an. Et le reste, c'est soit des vacances, soit du repos, des arrêts techniques, etc. Donc, ça a beaucoup évolué, il faut le dire aux jeunes, parce que c'est un métier de passion. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par la mer, mais qui ne voient pas forcément la connexion avec la pêche professionnelle. Donc, c'est à nous de le faire. Et ça commence, alors je dis bien ça commence, à porter ses fruits localement. Et puis, il y avait une maman l'autre jour, j'étais à Nantes, et c'était dans un collège privé à Nantes. Et la maman est venue le lendemain, parce qu'elle savait que j'étais encore là. Elle m'a dit, mon fils est arrivé, parce que bon, il y avait des tas de professions, mon fils est arrivé hier soir à la maison, il m'a dit, maman, je vais être marin pêcheur. Elle était complètement surprise. Bon, j'avais dû effectivement avoir les bons arguments, mais donc ça fait toujours plaisir. Alors on creuse ce sillon, ben on espère que les nouvelles générations pourront travailler à l'île-Dieu, parce que c'était quand même un métier où on peut bien gagner sa vie. Et puis, voilà, s'épanouir dans un métier qui est quand même aujourd'hui, qui n'est pas comme les autres. Et il faut pour ça que quand on parlait de l'île-Dieu, de l'avenir de la pêche à l'île-Dieu, ben voilà, c'est un peu la phrase tant qu'il y aura des hommes. Parce que moi, je ne m'inquiète pas pour le poisson, je m'inquiète plus pour les hommes.
Alors, superbe, mais ça c'est... Merci de l'avoir dit. J'ai encore un point avant, peut-être, si vous en êtes d'accord, Sébastien, qu'on passe le micro aux questions. Mais l'avenir, c'est aussi l'anticipation du port.
Alors...
Comment est-ce qu'on anticipe un port quand il y a justement peut-être une croissance de la plaisance, un certain nombre de bateaux de pêche, etc. C'est tout un métier aussi d'anticiper l'avenir d'un port. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut y penser, il y a beaucoup de concertation et peut-être que ça peut aussi avoir un impact sur l'orientation de l'île-Dieu et de la pêche à l'île-Dieu.
Ah ben c'est certain, le port, je dirais, le port Joinville, c'est notre joyau. Le joyau de l'île-Dieu, c'est le port. On est le plus grand port des îles du Ponant. Si vous allez dans toutes les autres îles, vous verrez souvent on arrive dans un tout petit port, il n'y a pas de place, il n'y a rien. À l'île-Dieu, c'est un grand port. Il y a une darse de pêche, une darse pour le commerce, un grand port de plaisance, un bassin à flot, un port en eau profonde, très important. Donc aujourd'hui, ce port, il a de multiples... On peut en faire à peu près tout ce qu'on souhaite. Et donc, l'avenir... port, c'est aussi l'avenir de l'île. Et donc, on a beaucoup réfléchi à ça. Donc, le port, il appartient, alors je le dis, le port, il appartient au département. Hein, et donc, la gestion se fait à la Chambre de commerce. Et on a un conseil municipal du port qui s'appelle le conseil portuaire, qui est présidé par un conseiller départemental, parce que je dis toujours conseiller général, mais non, conseil départemental, avec des désignations à la fois d'usagers et de politique. Et c'est vrai que l'avenir du port, c'est quelque chose de très important pour l'île. Ce qu'on fera de ce port, ce qu'on fera aussi, ça fait partie aussi de l'équation de l'avenir de l'île. Et donc, une des choses qu'on a fait, bon, on a bien vu la flottille diminuer, mais bon, il y avait des bateaux, les petits bateaux, ils étaient dispersés un petit peu partout dans le port, ils n'étaient pas forcément visibles. Et il y a quelques années, on s'est dit, il faut que la petite pêche, parce que là, comme la petite pêche était un petit peu éparpillée, certains avaient un ponton même dans le port de plaisance. Et donc, on a mis des pontons dans le port de pêche pour se dire que cette darse de pêche, qui est le cœur de l'île, qui est le cœur du port, effectivement, il faut que ce soit des bateaux de pêche qui y soient. Parce que ce serait tellement facile, vous l'imaginez bien, hein, la facilité, vous savez où elle est. Eh bien, c'est ce qu'on ne souhaite pas, parce que bon, on a un port de plaisance qui aujourd'hui fait plus de 600 places. C'est le premier hôtel de l'île, hein, parce qu'en termes de nuitées, je crois que on est rendu à plus de 20 000 nuitées par an, hein, donc on n'imagine pas, mais je veux dire, le premier village l'été, ce n'est pas le Kerchalon, et encore moins le Kerchevineau, c'est le port de plaisance. C'est énorme, hein, le nombre de gens qui viennent, qui partent, etc. Il y a une vie énorme. Et donc, on pourrait se dire, tiens, ben, aujourd'hui, il y a 600 places. Il y a une liste incroyable de gens qui attendent une place. Peut-être certains d'entre vous attendent. On pourrait soit l'agrandir, on pourrait peut-être faire 1200 anneaux, voilà, investir la baie du Kerchalon. Je pense qu'économiquement, on pourrait le faire. Financièrement, on pourrait peut-être le faire. Mais aujourd'hui, on se dit quand même, il faut quand même qu'on garde des équilibres. Et que déjà avoir un port de plaisance comme on a aujourd'hui dans une île, c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autres îles où on a un port qui a cette qualité en termes de nombre, en qualitatif et en quantitatif. Et donc c'est un port d'escale. Les gens du Nord viennent, passent toujours par l'île-Dieu. C'est un vrai carrefour. Et donc la plaisance, bon, elle a toute sa place, rien que sa place. La pêche a toute sa place, rien que sa place. Les bateaux de la régie, bon, ils ont effectivement leur môle. Bon, qu'on parle de la compagnie vendéenne, enfin les compagnies privées, parce qu'on dit toujours la compagnie vendéenne, mais c'est les compagnies privées. Le ponton a été formaté pour que les bateaux ne fassent pas plus de 30 mètres. Hein. Ça, c'était une règle, parce qu'on s'est dit, de toute façon, si on ne met pas une limite, les bateaux, il y en aura toujours plus, et plus grands, etc. Bon. Et puis, il y a des nouvelles activités. Bon, voilà, on parlait de l'éolien tout à l'heure. La base de maintenance, elle a quand même trouvé sa place. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'usages. Il y a une espèce d'équilibre qui se crée à l'intérieur de ce port. Il ne faudrait pas qu'il y ait des activités qui bouffent un peu les autres. Donc, c'est pour ça que le conseil portuaire, notre port de l'Île-Dieu, c'est quand même quelque chose de très important. Et les décisions qu'on prendra pour le port, il y aura des répercussions pour l'île.
Donc, prenons-en soin. Merci beaucoup, Sébastien. On va passer aux questions du public. Il y en aura sûrement beaucoup. Alors, je veux bien que vous leviez une main. Voilà, si vous avez... Ben voilà, je commence.
Oui, Jean-Rin Diry. Excusez-moi, je ne connais pas grand-chose à la pêche. Est-ce que vous avez parlé de système de surveillance sur les pêches de tel poisson, sans les nommer. Et alors, moi, je n'ai pas compris de quel poisson il s'agissait.
Oui, bah écoutez, il y a différents... Merci. Alors, bon, je ne peux pas tous les citer, mais il y a des espèces qui sont soumises à quota. Par exemple, on va prendre le merlu. On va prendre... Il y a au moins 20 ou 30 espèces commerciales, les plus importantes, les plus significatives, qui sont effectivement soumises à TAC. Et puis, il y a aussi, quand on dit surveiller, donc il faut respecter les quotas, donc c'est la responsabilité de l'OP. Par exemple, si demain, on a 100 tonnes à pêcher, qu'on laisse nos marins en pêcher 150, on va avoir notre agrément qui va être retiré et les marins n'iront plus en mer. Donc, c'est quand même une grosse responsabilité. Et puis, il y a l'action de l'État, qui est là au quotidien. Vous avez tous vu des vedettes, hein, la gendarmerie, les affaires maritimes qui sont au large, etc., qui viennent directement sur les bateaux, contrôler si effectivement les bateaux ils ont la bonne licence, s'ils ont les bons maillages, si le plan de cale est respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas pêcher 10 espèces et tout mélanger en vrac et mettre ça dans la cale. C'est interdit. Donc il faut bien séparer les espèces, les peser, etc. Donc aujourd'hui, il y a un vrai contrôle à la fois, je dirais, administratif. Et puis aujourd'hui, les marins, avant, ils remplissaient des logbooks. Je ne l'ai pas dit. Mais à la fin de la journée, un marin, il remplit son logbook. C'est-à-dire, il y avait un papier avant, il disait tant de sol, tant de lot, etc. Voilà, hop. Aujourd'hui, on a des logbooks électroniques. C'est-à-dire que c'est directement transmis à un organisme qui s'appelle le CROSS. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que le CROSS. Mais c'est un organisme qui s'occupe de la surveillance et du sauvetage en mer. Mais aussi le CROSS ETEL. C'est une particularité propre au CROSS ETEL qui est chargé de la surveillance de la pêche. Donc tout est transmis au CROSS et donc c'est après transmis à l'État qui contrôle. Et donc il y a un pêcheur, il peut effectivement être contrôlé administrativement. Il n'y a même plus besoin d'aller en mer pour le contrôler parce qu'il remplit son logbook. Par exemple, il dit voilà, j'ai pêché 100 kilos de lieu. Et puis, il s'est un peu trompé, il en a débarqué 102 ou 103 kilos. Ce n'est pas très grave, on reste dans la limite. Par contre, si en crié, il débarque 200 kilos, donc là, il y a un système de croisement et là, il peut être effectivement avoir une amende. Donc aujourd'hui, la pêche est très contrôlée en mer. Aujourd'hui, avec les moyens nouveaux qui font qu'on peut contrôler les pêcheurs à distance. Aujourd'hui, il y a plus de contrôleurs de l'activité maritime qui sont derrière des ordinateurs plutôt que des gens qui sont à bord des bateaux. J'ai répondu à votre question, en partie.
Oui. Alors, je prends une question ici et puis j'ai vu des mains derrière.
Oui, bonjour. Existe-t-il des solutions pour réaugmenter les réserves halieutiques de poissons? On parle de zones protégées, on parle de naisseries, de choses de cette nature. Y a-t-il d'autres façons d'aborder le sujet?
Alors oui, tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la pression de la pêche dans le golfe de Gascogne a beaucoup diminué. Quand je vous parle que les flottilles ont été divisées par 5 à l'île-lieu, ce n'est pas une exception. Si vous allez au port de Saint-Gilles, il n'y a plus de chalutiers pélagiques. Il y en a une paire de 15 mètres. Vous allez au sable, bon, il y a beaucoup moins de bateaux. Et si j'égrène tous les ports, au Guilvinec, je ne sais pas si les gens sont allés au Guilvinec un jour, à l'après-midi, le retour des côtiers où il y avait 60-80 navires qui arrivaient entre 16h et 17h, c'était absolument magnifique. Aujourd'hui, si vous retournez au Guilvinec, il y a une vingtaine de côtiers, vous voyez. Donc la pression de la flottille française à l'échelle du Golfe a beaucoup diminué. Alors ça, c'est un constat. Mais aussi, il y a, en termes de renouvellement halieutique, bon, l'État veut imposer, enfin veut faire des zones de protection fortes dans certaines zones. Et donc, oui, la pêche au chalut est clairement dans le viseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui font de la ligne ou du filet, les arts dormants, alors il y a deux techniques, hein, les arts dormants. Donc, on ne profite pas de la puissance motrice du bateau pour pêcher. C'est-à-dire qu'on met un casier dans l'eau, on attend que ça pêche, on met un filet dans l'eau, on attend que le poisson maille, on met une ligne, on attend que le poisson morde. Ça, c'est les arts dormants. Et puis, il y a les arts traînants. Donc là, c'est des bateaux qui... On a besoin de la puissance motrice du bateau et on tracte son engin de pêche. Donc, le chalut pélagique, c'est-à-dire qu'un chalut qui est entre deux eaux, on racle pas le fond, mais on va pêcher souvent des espèces pélagiques. Le thon, l'anchois, la sardine. Et puis, il y a les chalutiers de fond qui, aujourd'hui... peut-être mal employés, peuvent, dans certaines zones, avoir des impacts qui sont aujourd'hui discutables. Et donc là, aujourd'hui, on est un peu dans cette analyse. Le chalut est beaucoup attaqué. Je l'ai défendu tout à l'heure. Je continuerai de le défendre dans certaines conditions, même si moi, aujourd'hui, je ne suis pas un représentant, je ne suis pas élu au comité régional des pêches. Il y a un président, il y a un bureau, etc. Moi, je suis un salarié. Bon, j'ai quand même l'expérience de ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Mais oui, quand on dit qu'il faut refaire de... Puis bon, il y a aussi une chose, c'est qu'on applique depuis des années des plans de gestion. C'est-à-dire que les quotas ont beaucoup baissé. Hein, les bateaux sont moins nombreux, mais on ne pêche pas le poisson qu'on pêchait par le passé. C'est-à-dire que les quotas ont beaucoup diminué. Et donc, la ressource revient sur certaines espèces, notamment le bar. Enfin, on peut citer plein de... Vous irez sur le site de France Filière Pêche, vous verrez les avis du CIEM sur des tas de stocks. Avant, c'était surexploité. Mais depuis beaucoup d'années maintenant, on voit stock exploité de façon durable,
constitution de stock.
C'est ça. Et donc, il y a quand même un effort aussi de la profession qui demande ça aussi. Parce qu'il y a... Je ne vais pas critiquer les anciens, bon, Laurent est là, mais eux, ils avaient une idée productiviste. C'est-à-dire qu'il fallait aller en mer pour nourrir la France. Il fallait relever la France. C'était après la guerre, c'était ça. On pêchait du poisson parce qu'il fallait charbonner, il fallait retrouver. C'était les Trente Glorieuses. Et la pêche a été dans ce modèle économique. Aujourd'hui, les marins qui rentrent à l'école de pêche et qui sont n'ont pas cette mentalité-là. Ils sont beaucoup plus sensibles à l'évolution de la gestion de la ressource. C'est quel sens on a quel sens on donne à notre métier, etc. Donc tout ça fait partie de l'amélioration des stocks halieutiques. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Alors, il y avait une jeune question par ici, c'est toi.
Voilà.
Est-ce que les pêcheurs, ils mangent leurs poissons quand ils rentrent chez eux?
Alors, ça dépend desquels. Moi, souvent, on dit... Souvent, les marins sont assez des bons viandards, comme on dit. Mais j'ai été en mer. Les gars, ils mangent un repas de poisson, un repas de viande. Un repas de poisson, un repas de viande. Mais oui, certains, ils amènent leur poisson chez eux. Ils mangent du poisson. On mange du poisson. Les pêcheurs aussi. Et souvent, des poissons qui ne vont pas à la criée, des très bons poissons. Voilà, les gars se font plaisir. Mais les marins aussi aiment bien la viande. Il faut quand même le noter. Et moi, j'ai fait beaucoup de réunions, beaucoup de restaurants avec les gars. Et souvent, ce n'est pas du poisson au restaurant. Ils mangent de la viande. Mais oui, c'est une bonne question.
Alors, il y avait une question par ici.
Tout à l'heure, concernant la diminution des bateaux de pêche, vous avez évoqué l'année 1989. Je voulais savoir s'il y a eu une décision européenne cette année-là qui a obligé à la fermeture des bateaux, ou si c'est seulement la loi du marché qui a fait...
Alors, 89, c'est l'année où je suis arrivé au comité local. Donc là, on était plutôt dans l'apogée de la pêche. Et 90-91, on est retourné au thon. Donc là, ça a encore redonné un coup de boost parce que bon, la pêche au thon avait été abandonnée à la ligne traînante pour cause de rentabilité. Et donc les années, je dirais 90, 91, 92, hein, Laurent, je parle sous ton contrôle, c'était de très bonnes années. Et le port, gagnait un bateau de pêche ou un bateau de pêche côtière tous les ans. La première crise, ça a été une crise de marché en 93-94 parce que les produits d'importation de pêche fraîche ont débarqué en France. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Donc ça, c'était une crise nationale. Après, nous, les îlets, on a eu une deuxième crise. C'était la crise de l'interdiction de la pêche au filet maillon dérivant. Il faut savoir que les gars de pêche au large, il y avait 24 bateaux à l'époque. Tout le monde allait au thon, à part deux ou trois gars qui se consacraient à la pêche au requin taupe. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc là, parce que la pêche au thon, c'était juin, juillet, août, septembre. Mais en fait, c'était 6 mois de l'année, parce qu'en un mois d'avril, les bateaux partaient en réparation, on réparait les moteurs, parce qu'il ne fallait pas de panne pendant la période de thon, parce que les gars allaient très loin en mer. Hein. Enfin, moi, je me souviens d'être allé avec le petit loup, avec Christian Raffin, c'était en 91, on allait toujours au large, on mouillait, on partait, on allait au large. J'ai dit, mais quand est-ce qu'on va s'arrêter? Parce que bientôt, c'était plus près d'aller vendre notre thon à New York qu'à Concarneau. On était pendu par 24 Ouest, pour ceux qui savent. Et donc, on était quand même assez loin. Et tout ça pour dire que cette pêche au thon, qui était une monoactivité, ça donnait une force au port. Mais quand ça s'est arrêté, d'une force, c'était une très grande faiblesse. Et la reconversion des bateaux de l'île-Dieu du large, ça a été très difficile. Parce que arrêter le thon, c'était une chose, mais on voulait se reconvertir à d'autres espèces, mais on n'avait pas les quotas pour ça. Et donc, on a demandé des quotas de compensation, mais si on donne à Pierre, il faut le retirer à Paul. Et donc, les autres organisations professionnelles, notamment les Bretons, etc., disaient, bah, attendez, l'île-Dieu, c'est bien, mais vous demandez des quotas de compensation, mais si vous leur donnez, vous allez nous les enlever à nous. Donc, ça a été compliqué. Il y a eu des initiatives très fortes. Et donc, notamment la plus ambitieuse, je le dis ici, ça a été la pêche au thon rouge de 3 seineurs. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont connu cette période de 2000 à 2006. Hein, donc, les bateaux, je vais les citer. Il y avait la Gabrielle, il y avait l'Ophaline et il y avait le Massabielle. Et donc, on avait compris que déjà le thon rouge était très présent dans le golfe de Gascogne. Et donc, on a eu l'autorisation, dans le cadre de la reconversion, de construire ces 3 navires qui ont été en exploitation pendant 3 ans. Et puis, à cause de 2006, c'est-à-dire le plan de gestion du thon rouge à l'échelle, parce que le thon rouge, c'est pas géré par l'Europe ni la France, c'est géré par une convention internationale qui s'appelle l'ICAT. Et donc, en 2006, il y avait une surexploitation du thon rouge, notamment en Méditerranée. Et donc, les quotas ont été beaucoup baissés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le quota de thon rouge, 90% Méditerranée, 10% Atlantique. Et ça, c'est une clé qui a été mise à l'époque. Nous, on s'est beaucoup battus pour que cette clé puisse changer. Pour dire, il y a aussi du thon, il y a beaucoup de thon en Atlantique, et il faut un peu partager. On a été en guerre avec les Méditerranéens. Moi, j'ai même subi des menaces de mort. Je suis même passé à la télévision à striptease, voilà, où j'avais fait masquer ma figure parce que je voulais pas mais être vu. Mais en fait, clairement, à Bruxelles, une réunion sur le thon rouge, on m'a demandé de sortir. Sinon, je me faisais casser la gueule par des types qui étaient dans le couloir. Et c'était des périodes un petit peu difficiles. Et donc en 2006, il y a eu ce plan drastique pour le thon rouge. Et donc on a pu accéder au thon rouge. Et malheureusement, ces bateaux qui ont été très difficiles à construire dans le cadre de la reconversion, ces bateaux ont été sortis, plan de sortie de flotte. Ils étaient tout neufs. Et je peux vous dire que ça a été très douloureux pour le port. Ça a été très, très douloureux pour les armateurs concernés. Parce que je pense qu'ils avaient eu raison trop vite, trop tôt. Et donc, il a fallu se réduire à casser ces navires. Et pour eux, il y a eu des conséquences économiques énormes. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça a été difficile parce que humainement, financièrement. Et puis, on a eu aussi une troisième lame qui a été l'interdiction du requin taupe. Alors, en 2009, cette fois-ci, hein, donc l'ILIO, on était spécialisé dans cette pêche hein, qui était une pêche du large. On allait pêcher ça aux accords des fonds, canal Saint-Georges. Et donc, est arrivée l'histoire avec le dauphin. Bon, on a totémisé l'espèce, bon, voilà, avec les conséquences qu'on connaît. Et puis, les requins, on a commencé à totémiser cette espèce. Et on dit, ah oui, mais en Europe, on ne peut pas pêcher du requin, c'est pas possible. Voilà, nanani. On parlait du shark finning, c'est-à-dire qu'on pêchait les requins pour les ailerons. Mais nous, on n'a jamais pêché les requins pour les ailerons. Et après, je dirais, un vaste round à l'Europe, l'interdiction du requin taupe a été faite. Et ça correspondait à l'époque à une pêche de printemps, avril-juin. Donc c'était entre les pêches hivernales, alors je parle toujours de la pêche au large, entre les pêches hivernales, merlu-sol en hiver, et puis au printemps, il y a toujours une période charnière où... Et donc la pêche au requin taupe, qui a été mise au point par des gars de l'île-dieu, hein, notamment Laurent et moi, Bijou. C'était le Bijou ? Vierge de la Meule. Vierge de la Meule. Et donc ça a quand même... et donc cette pêche a été... spécifique à l'île-dieu, il n'y a que les îlets dans le golfe qui pêchaient le requin taupe. Et en 2009, ça a été interdit. Donc, quand vous parliez de dates clés, j'en vois trois. 98, l'interdiction du filet maillant dérivant. Je dirais, entre guillemets, l'échec de la reconversion du thon. L'interdiction de la pêche au requin taupe. Et aussi, la baisse de certains quotas, etc. Donc, on était toujours dans l'incertitude, les marins ne voyaient pas clair tous les ans, et donc ça a dégoûté beaucoup de gens. Et certains ont pris leur retraite et les jeunes n'ont pas repris les entreprises. Voilà, ça s'est fait petit à petit, à bas bruit, on va dire ça comme ça. Et puis aujourd'hui, le résultat, il est là. Hein. Bon, voilà.
Alors, on va prendre encore quelques questions. Laurence, tu avais... Alors.
Une petite question, parce que vous parlez des réglementations. Moi, ma question, c'est ce qu'il ne manque pas, d'une certaine manière, sur certains secteurs, des réglementations. Parce que c'est vrai que les stocks de poissons n'ont jamais été aussi vite, que ce soit à l'échelle nationale ou globale. Il y a beaucoup de pays qui ont des difficultés, que ce soit par exemple le Maroc, la Mauritanie ou l'Éthiopie. Et ma question, est-ce que c'est le vrai défi, ne consisterait-il pas sur les réglementations de la pêche industrielle? Par exemple, en Europe, il y a énormément de gros chalutiers hollandais qui, je vais dire, font de la surpêche. Est-ce que ce ne serait pas ça le vrai défi pour la pêche locale? Voilà, merci.
Local, non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a les 12 000, ce sont les eaux nationales. De 12 000 à 200 000, les eaux européennes. Donc, il y a des réglementations. Au-delà de 200 000, la mer est à tout le monde. Si vous allez sur AIS, donc l'AIS c'est un peu le système de surveillance des navires, de localisation des navires, et donc si vous allez sur l'AIS et vous tapez navire de pêche, vous allez voir effectivement toutes ces flottilles industrielles qui écument les mers, et notamment les Chinois. C'est-à-dire aujourd'hui un poisson sur trois est pêché par des navires chinois. Mais au-delà des 200 000, il se fait effectivement je dirais pas n'importe quoi, mais ça se fait, il se fait. Et puis le drame de l'Afrique, hein, il faut quand même le dire, c'est que l'Afrique, ça a été la porte de sortie à beaucoup d'armements de pêche industrielle, notamment espagnol, hollandais, tu le disais. Et voilà, l'Europe, avec de l'argent public, hein, on a aidé des armements, des gros armements industriels à aller pêcher en Afrique. Donc on peut se dire, ben oui, cet argent, il a été versé aux autorités des pays. Mais on sait ce que c'est pas pour ça que au Sénégal, avec cet argent, on a construit des ports en eau profonde, avec des quais, des pontons, pour que les pêcheurs locaux puissent mieux travailler. Aujourd'hui, ils en sont encore à mettre leur bateau sur les plages. Alors que moi, je sais qu'il y a beaucoup d'argent d'Europe qui est allé vers ces pays pour améliorer la pêche artisanale. Et bon, je ne sais pas ce que beaucoup de... Alors, je n'accuse pas, mais bon, c'est quand même de notoriété publique. L'argent n'est pas allé aux pêcheurs mauritaniens ou sénégalais.
Hein ? Une réaction ?
Juste, si je ne me trompe pas, les pêcheurs ils partent l'hiver pendant plusieurs mois au large, mais donc c'est là où il rencontre pas mal de difficultés. Enfin, je sais qu'il y avait un documentaire Arte que je vous conseille à tous sur la surpêche en Europe, et il parlait notamment aussi des pêcheurs à l'idieu qui avaient du mal à pêcher face à ces, je veux dire, flottes. Par exemple, là, il parlait des flottes hollandaises qui sont monumentales. Voilà.
Non, mais à l'extérieur des 12 000, c'est vrai qu'il y a des bateaux de pêche industrielle. Notamment on vient pêcher dans le golfe, les Hollandais viennent pêcher du maquereau dans le golfe, mais bon, ils sont autorisés à le faire, hein, et bon, il y a une concurrence qui est claire, c'est-à-dire que bon, un bateau de pêche française, en général, c'est un bateau de moins de 25 mètres, et puis on se retrouve à 14, 15, 16 000 de l'île-lieu, avec des bateaux qui sont 3 fois supérieurs en longueur et 4 fois supérieurs en puissance, et qui viennent pêcher au chalut pélagique, hein, Laurent, notamment du maquereau. Mais ça, c'est pas faute de le dénoncer. Aujourd'hui, on en est là. Et ce qu'on subit à l'échelle de notre petit golfe de Gascogne, ailleurs, dans d'autres pays, ben, c'est multiplié par 10, par 20, par 30. Et le drame de la pêche artisanale, c'est ça. Donc il ne faut pas opposer la pêche industrielle à la pêche artisanale. En France, c'est plutôt équilibré. On a un comité national des pêches où effectivement tout le monde est représenté. C'est pas les pêcheurs artisans qui vont aller pêcher de l'albacore dans l'océan Indien pour que vous puissiez manger du thon en boîte. Bon, la pêche industrielle, elle a sa place, toute sa place. Mais effectivement, il y a aujourd'hui pas une déréglementation, mais un manque de contrôle dans les eaux internationales qui font que certains pays écument les mers, tu as raison, et sans trop de contrôle. Et avec beaucoup de... Pas de compromission, mais de... Oui, il faut dire ça comme ça. Oui.
Bonjour, j'ai deux questions. Une première, c'est comment se passe à l'heure actuelle le terrain de jeu avec nos amis espagnols, puisqu'il y a eu quand même des tensions par le passé ou autre, et est-ce que ça continue ? Et ma deuxième question, ça concerne le GIE, les pêcheurs de l'île-dieu. Savoir comment ça fonctionne, quelle est le tonnage de réaliser et quelle est pour chacun de ces bateaux la part qui est faite en vente à MAP ou vente criée. Voir un peu de l'actualité du GIE sur le maintien de l'économie de la pêche sur l'île.
Oui. Alors concernant les Espagnols, bah, écoutez, ils ont fait le vide. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match. Hein. Je veux dire, déjà, quand du temps de la Gabrielle en 94, quand ils ont attaqué les bateaux de l'île-dieu, je vais les citer, il y avait le Teddy qui avait été endommagé fortement, la fille du Suède, le Myosotis et la Gabrielle, où ils avaient tellement tapé sur la Gabrielle que l'équipage était obligé d'évacuer sur le navire Tenace, et la navire de la Gabrielle en 94 a été rentrée dans un port espagnol. Donc c'est plus que des tensions, c'était carrément la guerre, avec des gens qui ont été traumatisés par ça, hein. Moi, dans ma propre famille, j'y reviendrai pas, mais je suis persuadé qu'un membre de ma famille ne s'est jamais remis de ça. Et voilà. Et malheureusement, il nous a quittés un peu après. Donc c'est des cicatrices qui ont été difficiles à se remettre, à fermer. Et on en parle encore. Hein. C'est-à-dire que un bon espagnol, souvent un marin disait, de toute façon un bon espagnol, c'est un espagnol mort, or j'irai pas jusque là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de match, parce que d'abord, les flottilles espagnoles ont beaucoup baissé aussi. Et puis, sur les bateaux espagnols, aujourd'hui, si vous regardez les gens qui naviguent sur les bateaux espagnols, il y a quelques marins espagnols, quelques marins basques espagnols notamment, mais il y a beaucoup, beaucoup de marins de l'extérieur de la communauté européenne, hein, notamment des Africains. Et aujourd'hui, ces marins, s'ils n'étaient pas là, pour naviguer sur les armements européens et même français. Hein. On a quelques collègues africains qui naviguent à Lisieux. Donc tout a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le Marial ou l'Eos vont au thon, à la perche, ils voient des Espagnols. Mais aujourd'hui, ils pèsent rien. Donc il n'y a plus d'enjeu pour l'Espagne. Donc on nous a éliminés ou il reste quelques survivants et ces gens-là... heureusement qu'on leur tape pas dessus parce que franchement. Et puis concernant le GIE, le GIE, c'est pour expliquer aux gens ce que c'est que bon, le système des AMAP, hein, l'Association pour une meilleure agriculture de proximité, je crois. Donc c'est un tissu qui est très important en Vendée et en Pays de la Loire. Donc aujourd'hui, c'est la mise directe entre le producteur et puis le consommateur, sans intermédiaire. Et avec les connaissances qu'on a eues, des connexions qu'on a eues. La map nantaise, on pouvait tout acheter sauf du poisson. Voilà. Et donc, il y a au moins maintenant 15 ans, hein, facile. On a pensé une AMAP de poissons à partir des pêcheurs de l'île-Dieu. Et par contre, il fallait absolument mettre un intermédiaire entre les deux parce que, bon, un pêcheur, il ne peut pas vendre directement son poisson à part au ponton. Et envoyer du poisson sur Nantes, il faut quand même le marier, c'est-à-dire le mettre en caisse, le peser, le marier. Il y a des normes, donc on passait par notre coopérative qui s'appelait Yeumar à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une entreprise privée qui le fait. Et donc, la MAP, c'est un système citoyen. Donc ce sont des associations de citoyens qui, entre eux, se débrouillent pour faire une commande sur 10 mois. Donc ils achètent du poisson, mais ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce qu'il y a dans la boîte. Ils acceptent de manger du poisson avec un prix de colis fixe sur l'ensemble de l'année, d'octobre à fin juin. Et les deux mois d'été, il n'y a pas d'AMAP, parce que les gens partent en vacances, etc. Oui, il y a un petit trou maintenant à cause des dauphins, parce qu'effectivement, au mois de février, on ne va pas à la mer. Bon, oui, vous avez raison. Donc si vous voulez, ce système, de vente directe, était une évolution, mais le poisson passait quand même en criée. Vous voyez, il y avait quand même une traçabilité. C'est pas du poisson, entre guillemets, tombé du camion qui n'aurait pas de traçabilité. Il y a une traçabilité. C'est acheté en criée, etc. Enfin voilà, le système il est bien fait et ça aide. Alors tous les pêcheurs de l'île-Dieu ne sont pas au GIE. Il y en a que quelques-uns parce que il y a quand même des contraintes pour le pêcheur. Vous voyez. Donc certains l'ont accepté, d'autres ont dit moi je vais en crier, ça m'intéresse pas. Mais oui, ça donne un complément de salaire aux marins pêcheurs et aux armements qui le font.
Alors je vais prendre une question d'ici avant de...
Bonjour, merci beaucoup, c'était très éclairant. Je voulais revenir sur ce que vous racontiez sur l'amalgame entre les luttes écologiques et la pêche artisanale. Et je voulais savoir s'il y avait des médiations qui étaient mises en place et quels étaient les systèmes de communication que vous aviez avec ces différentes associations, si ça avait été pensé, s'il y avait de l'argent qui était mis pour ça, pour justement éviter que lutte écologique s'intersectionne avec mépris de classe et impacte les pêcheurs les plus précaires. Je voulais savoir si il y avait des choses qui existaient, comment c'était pensé.
Alors, question un peu difficile, mais par le passé, quand on a eu les premiers, échanges avec les associations écologiques, on pouvait encore aller à Paris, au Comité national des pêches, et s'asseoir autour d'une table et discuter. Et je pense aujourd'hui à cette association écologique qui s'appelle Robin des Bois, qui à l'époque a beaucoup critiqué sur une émission que beaucoup de gens, vous pouviez voir le mardi soir, qui s'appelait Ciel mon mardi, avec Christophe de Chavannes, où il y a eu une émission, et faut-il interdire les filets maillons dérivants? Et donc il y avait deux armateurs de l'île-Dieu, il y avait un breton, il y avait des associations écologistes, et donc il y a eu tout un débat. Alors à la fin, faut-il interdire les filets maillons dérivants? les gens pouvaient téléphoner. Oui, à 98%. Bon, voilà. Et donc cette association, je le dis, est venue à l'île-Dieu. On a dit, mais venez nous voir, venez sur nos bateaux et embarquez. 8 jours après, ils étaient là. Donc ils sont partis sur l'Alcor à l'époque. Et ils ont découvert que la pêche artisanale de l'île-Dieu, c'était pas du tout ce que les médias, ce qu'on présentait en général, c'était pas une carrière. Et donc oui, il y avait un espèce de débat, et il y avait, c'était pas des luttes idéologiques. Il y avait un échange. Mais les grandes associations, je dirais, qui sont comme Greenpeace, comme Sea Shepherd, etc., c'est des gens aujourd'hui qui sont radicaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas contre le filet maillon dérivant ou contre... Ils sont contre la pêche. C'est-à-dire que c'est des gens, des spécistes, on dit ça comme ça, et on s'aperçoit qu'au fil du temps, ce sont des gens qui sont de plus en plus radicaux, ils sont contre la pêche, et j'irais même contre toute pêche, parce qu'il ne faut pas manger de poisson, etc. Ils ont des discours qui, à l'échelle de l'île-Dieu, nous choquent, mais ça existe. Et donc c'est vrai que on veut bien faire des efforts, on a fait des efforts, on fait des efforts, etc. Mais je crois que même si on fait tous les efforts, ça ne sera jamais suffisant. Et il y a aussi une... bon, voilà, c'est une réalité. Hein. La gestion de la communication, notamment au travers des réseaux sociaux, bon, ben, ils avaient quand même beaucoup d'avance sur nous. Parce que, bon, pendant longtemps, on disait, bon, les gars, bon, pauvres et heureux vivant cachés. Bon, voilà, on fait notre métier, on a l'impression d'être des gens, des honnêtes citoyens, on n'a rien à se reprocher. Pourquoi on irait justifier notre activité? Et bien ça, on se plantait complètement avec ce genre d'argument, parce qu'aujourd'hui, il faut tout justifier. Et les associations écologiques, avec des images choc d'un marsouin dans un filet, et bien ça fait le tour de la stratosphère, ou je ne sais pas comment que ça s'appelle. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve des fois, ben, on est toujours sur la défensive et on a toujours un temps, voire 2-3 temps de retard. Alors on essaye, je vous encourage à aller voir le site du comité régional des pêches, on a un truc voilà, sur Facebook, Instagram, etc. C'est moi qui écris un peu les textes pour justement essayer d'aller vers les gens et puis de contrer ces contre-vérités. Mais pour répondre à ta question, c'est de moins en moins facile d'avoir un vrai dialogue entre le monde de l'écologie qui se radicalise. Et ça, c'est compliqué quand on fait un métier dans lequel on a plutôt l'impression de faire bien les choses, d'être plutôt des honnêtes gens, et puis d'être totalement mis sur la sellette comme ça en permanence. Et les gens, ils le vivent très très mal, mais je vous jure, très mal. Il y a une crise d'identité. Des fois, moi j'ai un pêcheur de Saint-Gilles qui m'a dit bah, moi le bateau, mon fils va pas le reprendre parce que je fais la pêche au chalut, de toute façon dans quelques années ça sera foutu. Et voilà, donc les gens, certains baissent le pavillon à cause de ça, hein, mais c'est pas facile d'être jugé.
Merci beaucoup, et voilà, retour à l'importance de l'égalité à l'information et la qualité de l'information, on le dira jamais assez. Merci infiniment Sébastien, je crois que ça nous a vraiment beaucoup éclairé. Mille merci.
Alors, je voudrais dire un tout petit mot, parce que avant de terminer, j'aurais un vœu à faire. On parlait du port, on parlait d'une opportunité, d'une contrainte d'en faire une opportunité. Vous savez qu'à l'île-Dieu, bientôt, les îlets vont toucher de l'argent des éoliennes, hein, puisqu'on n'en a pas parlé. Donc, une petite digression là-dessus. Donc, la commune va toucher, je ne sais pas, entre 600 000 et 700 000 euros, peu importe la somme. Moi, je souhaiterais, en tant que, justement, défenseur de sport, que cet argent soit mis dans un budget annexe et qu'on puisse faire de cet argent quelque chose d'utile pour le port. Et la première chose utile pour le port à faire, c'est de refaire l'estacade. Merci.